va commencer. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir Kiron, que je connais depuis pas mal d'années, et qui va nous parler de processus d'exclusion. En fait, c'est déjà un expert là-dessus, bien connu à l'échelle internationale. Donc, il va dans toutes les conférences. Il est extrêmement clair. Donc, je suis très content qu'il ait accepté de parler aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier Bernard pour son invitation et à l'auditoire d'être là. C'est un grand plaisir et un très grand honneur de pouvoir parler ici. Donc, je vais vous parler du processus d'exclusion. Bernard m'a conseillé de faire une sorte de revue du sujet. C'est un sujet qui est très vaste, donc je ne pourrai évidemment pas parler de tout. C'est une sélection qui est un peu personnelle. Mes transparents sont en anglais, mais je parlerai en français si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc le processus d'exclusion, je vais commencer par raconter un peu d'où il vient, quelles sont ses origines variées. Puis ensuite, je vais m'intéresser à trois cas qui correspondent à trois types de méthodologies différentes, trois cas purs, comme on le verra, soit le modèle sur un anneau, le modèle avec des bords ouverts, ou le modèle sur une ligne infinie. Et comme on le verra, les techniques et les résultats obtenus sont très différents d'un cas à l'autre. Puis on conclura en regardant un petit peu la limite hydrodynamique du modèle qu'on a vu en cours un petit peu ce matin aussi. Alors si on regarde le dessin habituel d'un modèle hors d'équilibre, le dessin qu'on voit à toutes les conférences, que tout le monde dessine, c'est un réservoir qui communique, c'est une barre de fer, disons, qui communique entre deux réservoirs qui sont à des températures ou à des potentiels chimiques différents. Alors si les potentiels ou les températures étaient les mêmes, on aurait affaire à un système qui tend vers l'équilibre thermodynamique, qu'on saurait décrire très bien. S'ils sont différents, il va y avoir un courant stationnaire qui va s'établir du plus chaud vers le plus froid ou du plus grand potentiel chimique vers le plus petit potentiel chimique. Et ce courant stationnaire va garder le système hors d'équilibre et on ne pourra pas le décrire à l'aide des méthodes standards de la physique statistique à l'équilibre, qui est la physique statistique construite par Maxwell, Gibbs, Boltzmann au siècle dernier. Alors si on regarde ce dessin, donc le sort de dessin un petit peu passe-partout, qui est dans toutes les conférences, premier transparent de toutes les conférences, et qu'on regarde ce dessin avec les yeux de la foi, on peut dire que finalement, si on veut décrire ce qui se passe dans ce dessin général, on peut considérer un modèle simplifié de particules sur un réseau. Les particules sont sur un réseau de taille finie, par exemple, de 1 à L. Chaque particule occupe un site, et pendant le temps T à T plus dt, une particule peut sauter d'un site vers un voisin, avec probabilité 1 vers la gauche, ou Q plus petit que 1 vers la droite, à la condition que le site cible ne soit pas déjà occupé, qu'il soit libre. Donc les sauts, ce saut-là est permis, mais un saut qui induirait une double occupation d'un site est interdit. C'est ce qu'on appelle le processus d'exclusion, la contrainte d'exclusion, qui n'est pas une contrainte à la Pauli, qui n'est pas quantique, qu'on met à la main, mais qui, disons, modélise les interactions de cœur dur entre particules sur un réseau. Alors c'est un réseau fini, et on peut le mettre en communication avec deux réservoirs infini de particules, à gauche et à droite. Si le site numéro 1 est libre, il peut être occupé avec un taux alpha. S'il est occupé, il peut être vidé avec un taux gamma. Et quelque chose de similaire se passe à droite avec des taux bêta et delta. Donc ces taux alpha, bêta, gamma, delta sont des paramètres du système, ainsi que Q. Les taux de bord fixent les densités des réservoirs. Le paramètre Q fixe l'asymétrie du modèle. Si Q égale 1, une particule a la même tendance indépendamment des réservoirs, d'aller à gauche et à droite, dans le cœur du système. Si Q est plus petit que 1, on est poussé de la gauche vers la droite. C'est un modèle très simple, mais en fait, c'est un modèle minimal qui apparaît comme une brique de base dans beaucoup de modèles plus réalistes, comme on va le voir, de transport en une dimension. Il a été étudié dans plein de champs différents de la mathématique et de la physique, en probabilité, en combinatoire, en physique de la matière condensée, en physique de la matière molle. Et sur ce modèle relativement simple, il y a eu des milliers de papiers qui ont été écrits depuis une vingtaine d'années. Alors si on regarde un petit peu les origines possibles de ce modèle, alors ce modèle, on comprend qu'à cause de sa simplicité, il est minimal, mais il n'est pas trop minimal. C'est-à-dire qu'il contient quand même un certain nombre d'ingrédients qui font qu'il est intéressant et qui va pouvoir donner une phénoménologie non triviale. Déjà, l'exclusion, c'est quelque chose qui induit donc une interaction entre particules. Ce n'est pas un problème à un corps, ce n'est pas un problème de particules libres. À cause de la contrainte d'exclusion, elles vont se voir et elles vont avoir un comportement collectif qui va émerger. à cause de l'asymétrie, donc qui est due à deux sources, l'asymétrie interne, ce Q qui peut être différent de 1, et l'asymétrie externe entre les réservoirs qui imposent des potentiels chimiques différents au bord, cette asymétrie va induire un courant, disons un flot de la gauche vers la droite, et donc va garder le système hors d'équilibre. Et ensuite, c'est un processus, il n'y a pas d'énergie ici, je vous ai juste donné des règles de saut, des règles d'évolution du système, et du fait qu'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas du tout même penser à essayer d'appliquer la physique statistique d'équilibre qui est basée sur un Hamiltonien, sur une énergie, sur des poids de Boltzmann, tout ça, on ne peut même pas démarrer, donc on est obligé de penser à autre chose. La seule chose qu'on puisse vraiment écrire de manière totalement rigoureuse et sûre, c'est l'évolution de la probabilité des configurations à l'échelle microscopique. Cette évolution est markovienne, elle suit une équation de Markov, une équation maîtresse. La probabilité qu'une configuration C apparaisse à l'instant T évolue selon une équation linéaire. Et l'ensemble de la dynamique est gouverné par la matrice de Markov M qui code les règles de saut, les règles de transition d'une configuration vers une autre. Donc ce modèle a été inventé il y a 50 ans cette année, en 68. Et il a été vraiment inventé pour la première fois par des personnes travaillant en biophysique, même plutôt en biologie. Caroline MacDonald, M. Gibbs et Pipkin se sont intéressés à la manière dont l'ARN messager est lu et traduit en protéines dans le ribosome. Donc vous avez ici une image de l'ARN messager, le ribosome qui passe dessus, qui lit les triplés codants du code génétique et qui transforme ces triplés codants en acides aminés et fabrique la protéine peu à peu. Là, vous avez une véritable image microscopique de l'ARN messager qui est lu par ces ribosomes en parallèle et des petits bouts de protéines qui sont en train d'émerger en parallèle le long de cet ARN messager. Donc, ces auteurs, il y a 50 ans, ont essayé de comprendre ce qui se passait au niveau, disons, physique, au niveau de la production de protéines, en disant, ben voilà, on va essayer de modéliser l'ARN comme une sorte de ligne, le ribosome qui lit trois paires de bases à la fois comme quelque chose de longueur 3 et qui avance et qui fabrique la protéine qu'on ne représente pas ici. Donc finalement, c'est un modèle de trafic, en quelque sorte, de ces moteurs moléculaires, de ces ribosomes qui sont en train d'avancer le long de l'ARN messager. Donc ça, c'est un modèle compliqué. Si on regarde vraiment la vraie biologie qui est derrière, c'est terriblement compliqué. Il va falloir simplifier les choses pour comprendre. Alors ça, c'est l'origine, je crois, la première. Mais comme c'est un modèle très simple, il est apparu essentiellement en parallèle autour des années 70, du début des années 70, dans plein de domaines différents. Les mathématiciens, Spitzer, Harris, Liggett et d'autres, se sont intéressés à l'interaction de processus browniens. Un peu plus tard, les gens de la physique statistique autour de Joël Leibowitz, Katz, Spohn, se sont intéressés au système diffusif hors d'équilibre. C'est vraiment la thématique qui nous intéresse le plus ici. Dans les années 70, les gens se sont intéressés à la manière dont les macromolécules pouvaient être transportées dans des capillaires très fins, où c'est évidemment ce déplacement le long de l'ARN messager. En physique du solide, dans des solides qui sont très anisotropes, il peut y avoir des conductions qui sont très unidimensionnelles par saut, par saltation. Donc c'est aussi un modèle qui est apparu dans ce monde-là. Et on a vu en cours plusieurs fois que c'était lié au polymère dirigé et à l'équation de KPZ. Les applications sont multiples. Aujourd'hui, le trafic à Genève est modélisé par des avatars du modèle d'exclusion. Il faut compliquer un petit peu les choses. Cécile Appert-Roland parlera de ces choses-là la semaine prochaine, sans doute. On peut aussi relier le modèle d'exclusion à des problèmes de matching de séquences. Je n'arrive pas à trouver le mot français. Et il y a des problèmes de moteurs moléculaires aussi. Notamment, il y a des travaux de Erwin Frey et de son équipe, très récents, qui reviennent en quelque sorte à ces travaux initiaux de MacDonald, mais en rajoutant toute la connaissance qu'on a obtenue sur le modèle d'exclusion du point de vue théorique et en rajoutant des techniques modernes pour comprendre un petit peu mieux ces problèmes initiaux qui avaient motivé l'introduction du modèle. Alors le lien avec KPZ, donc l'équation de KPZ qu'on a vue ce matin, le lien c'est que finalement une configuration du modèle d'exclusion qui est faite de particules et de trous, on peut très bien représenter cette configuration en disant qu'une particule correspond à une ligne qui descend à moins 45 degrés, un trou à une ligne qui remonte à plus 45. Donc finalement, la ligne en noir là, l'interface, elle correspond exactement à la configuration que j'ai dessinée en dessous. Et si on regarde ce qui se passe quand une particule saute, par exemple, de la gauche vers la droite, c'est exactement comme si on rajoutait un petit losange ou un carré penché sur notre interface et que l'interface avançait. Donc un modèle de déposition aléatoire sur une interface unidimensionnelle, c'est parfaitement équivalent à un modèle d'exclusion. Et ce modèle d'interface aléatoire, il est régi aux grandes échelles de temps et d'espace par une équation continue, qui est l'équation de Kardar par Riesz-Ytong, qui est une équation très importante en physique statistique hors d'équilibre. Alors, on ne va malheureusement pas s'intéresser à des problèmes réalistes, on va passer à des problèmes très purs, sur lesquels on peut faire des calculs et obtenir des résultats précis. Alors, le modèle d'exclusion peut se décliner avec beaucoup, beaucoup de variantes. Les trois cas que je vais regarder ici correspondent à trois types de conditions au bord sans impureté et très homogènes. Soit le plus simple possible, c'est de regarder le modèle sur un anneau. Donc, il n'y a pas de bord. C'est une autoroute sans entrée ni sortie. Mais du fait de la symétrie entre les sauts vers la gauche ou vers la droite, ou dans le sens trigonométrique, dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, il y a un courant global qui circule dans le système. Donc ça, c'est un modèle très minimal pour essayer de comprendre ce qui se passe hors d'équilibre. L'autre type de modèle qu'on peut regarder, c'est un modèle aussi sans bord, mais sur une ligne infinie. Donc ça, c'est un modèle où on regarde finalement une interface sans bord, et on regarde un peu comment elle évolue. Et puis, il y a le modèle que j'avais introduit tout au début, qui est un modèle sur un système de taille L, mais avec des réservoirs à gauche et à droite qui peuvent manger ou mettre des particules dans le système, qui peuvent absorber ou émettre des particules. Alors, ces trois modèles sont semblables, si on regarde ça comme ça, mais en fait, les techniques qu'on utilise pour les étudier et obtenir des résultats sur ces modèles sont très différentes. Donc, je vais commencer par le plus simple, qui est le modèle périodique, le modèle sur un anneau. En changeant légèrement de notation, quitte à changer les échelles de temps, on peut très bien dire que les particules sautent dans le sens trigonométrique avec un taux 1 et dans le sens antitrigo avec un taux x plus petit que 1. Et le nombre de particules étant conservé, on peut facilement compter le nombre de configurations, c'est juste le binôme Ln. Alors, il y a une équation de Markov, comme tout à l'heure, et une configuration, c'est juste la donnée de la position des particules au temps n. Et l'équation de Markov, si on a réussi à la résoudre, on pourra tout dire sur le modèle. Alors, on n'arrive pas nécessairement à la résoudre complètement, mais il y a une remarque absolument essentielle qui a été faite il y a déjà plus de 25 ans par Dar, puis exploitée par Goa et Spohn. Alors, je ne vous donne pas les détails, mais si on regarde cette matrice de Markov, elle est en train, et c'est essentiellement, d'actualiser un lien dans le système. Quand une particule saute, un lien passe de l'état 1,0 vers l'état 0,1, ou l'inverse. Donc, c'est une actualisation de paire sur un lien. Et si on regarde vraiment ce qui se passe en détail, on se rend compte que cette matrice de Markov, elle est en fait parfaitement équivalente à ce qu'on appelle une chaîne de spin quantique, même s'il n'y a ici rien de quantique, c'est juste une équivalence mathématique exacte, il n'y a pas d'approximation. En fait, cette matrice de Markov, elle peut se réexprimer à l'aide des matrices de Pauli, qui sont les matrices de spin locales, et elle peut se réécrire comme un Hamiltonien dit de Heisenberg, qui avait été inventé par Heisenberg dans les années 20 pour comprendre le magnétisme dans les matériaux. Alors la seule différence, mais elle est de taille, c'est que dans ce cas-là, cette équation-là se met à ressembler énormément à une équation de Schrödinger, mais il y a deux différences en fait. Une importante qui est qu'en fait, il n'y a pas de i. Dans l'équation de Schrödinger, il y aurait un i, on serait en temps imaginaire. L'autre qui peut paraître importante, mais qui est un petit peu moins, en tout cas pour nous, dans les techniques qu'on utilise, c'est qu'il n'y a aucune raison que la matrice de Markov soit hermitienne. La mécanique quantique impose l'hermiticité. Ici, elle n'est pas nécessairement, sauf si les sauts sont symétriques. Dans ce cas-là, elle est hermitienne. Alors, je viens de me rendre compte, c'est toujours le problème, c'est qu'en fait, la Q, je suis désolé, c'est X. Mais vous aviez corrigé vous-même. Donc, bon, c'est pas bien grave. Alors, si on regarde ce qui passe dans ce système, en fait, au temps long, on tend vers un état stationnaire et toutes les configurations sont équiprobables. En fait, chaque configuration, il y en a grand oméga, binôme NL, chacune apparaît avec le même poids. Donc l'état stationnaire est plat, il est finalement assez inintéressant, assez étal, et les fluctuations autour de cet état plat seront gaussiennes. Alors, même si cet état stationnaire est plat, c'est-à-dire que toutes les configurations microscopiques apparaissent avec le même poids, malgré tout, il y a un courant dans le système. Dès que les taux de saut vers la gauche et vers la droite ne sont pas les mêmes, x est différent de 1, il y aura un courant stationnaire qui sera établi dans le système. Donc, on peut s'intéresser aux propriétés statistiques de ce transport, de ce courant dans le système. Alors, là, je vais passer très, très, très vite, parce que ce serait évidemment... Mais c'est possible que Bernard vous fassiez un cours sur l'andas de Bethe. Je me demandais si vous n'alliez pas le faire aujourd'hui. Donc je ne détruis pas le cours, bien sûr, à l'avance. Il existe une technique magique qui a été inventée par Bethe en 1931 pour précisément résoudre l'hamiltonien de Heisenberg, dans le cas Q égale 1, qu'on appelle l'andas de Bethe, qui est une manière de trouver les états propres de cette matrice de Markov, donc finalement tous les états d'évolution et de relaxation du système. Et l'idée de Bethe, c'est que ce système, s'il n'y avait pas d'interaction, eh bien, les états propres du système, ce seraient des ondes planes. Chaque particule serait une onde plane, et pour n particules, on aurait le produit de n ondes planes indépendantes. Alors, pour certains systèmes particuliers, qu'on appelle intégrables, cette structure-là survit. Et les états propres, c'est le cas du modèle de Heisenberg, c'est le cas du modèle d'exclusion, les états propres du système sont miraculeusement donnés par des combinaisons d'ondes planes. Donc on peut écrire un état propre de la matrice de Markov M comme une somme sur des permutations d'ondes planes. Ce qui se passe, les permutations proviennent du fait suivant, c'est que chaque particule arrive avec son onde plane, mais quand deux particules sont à côté et d'une certaine manière se rencontrent, ont une collusion, eh bien les nombres d'ondes des deux ondes planes s'échangent. Et donc s'il y a n particules, et qu'on regarde tous les échanges possibles, il y a factoriel n échanges possibles. Donc finalement, on peut vraiment écrire les états propres du système comme une combinaison linéaire d'ondes planes. Alors par contre, les amplitudes de ces ondes planes sont fixées par la dynamique, ce n'est pas quelque chose qui est libre, à une constante globale près. Et puis les nombres d'ondes de ces ondes planes, le z, c'est les nombres d'ondes de l'onde plane, eux aussi sont fixés par la dynamique et les conditions au bord, et doivent satisfaire un système d'équations non linéaires, qui s'appellent les équations de Bethe, qui ont été trouvées par Bethe en 31. Si on met x égale 1 dans ces équations-là, c'est exactement les équations que Bethe avait écrites pour résoudre le modèle d'Heisenberg en 1931. Et connaissant ces z, ces nombres d'ondes, on peut déduire les énergies du système. Les énergies ici correspondent aux inverses des temps de relaxation. Alors, c'est des équations qui sont non linéaires, sont compliquées, mais si on y pense, on a abouti à une simplification énorme du problème, puisqu'ici, on se retrouve avec n équations polynomiales, non linéaires à résoudre, de degrés que je vous laisse calculer, mais de degrés pas très élevés, au pire linéaires ou quadratiques en la taille du système. Si vous cherchiez à diagonaliser la matrice de manière brute force, c'est un système qui est de taille binomiale Ln, donc 2 puissance L, typiquement. Donc on aurait à résoudre le polynôme caractéristique de degré 2 puissance L. Donc on est passé d'une complexité exponentielle en brute force, si on voulait résoudre le polynôme caractéristique, à une complexité qui est d'un degré polynomial, d'un degré quadratique, en fait. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Par exemple, si on regarde des cas limites de ces équations-là, le cas totalement asymétrique, où les particules n'ont le droit que d'avancer et pas de reculer, petit x ou petit q égale 0, eh bien, les racines de ces équations-là s'organisent sur des jolies courbes, qu'on appelle des ovales de Cassini. Donc on peut examiner ce qui se passe précisément pour les racines de ces équations et obtenir des résultats précis. Par exemple, on peut calculer non seulement l'état fondamental qui est zéro, qui est connu, mais on peut calculer les premiers états excités du système, ce qu'on appelle le gap. Ce gap, c'est l'état excité le plus proche de zéro, c'est celui qui met le plus de temps à relaxer. Et en calculant ce gap en fonction de la taille du système, on se rend compte que le temps qu'il faut pour relaxer pour un système de taille L croît comme L puissance 3,5 et qu'il peut apparaître des oscillations dès que la densité moyenne est différente de 1,5. Toutes ces choses-là ont été pas mal explorées, un petit peu par Dard, beaucoup par Goa et Spohn et aussi par Kim dans les années 90. Les oscillations ont été pas mal regardées aussi par des gens comme Barma, Majumdar, Krapivski et les excitations plus élevées ont été regardées par De Geer, Hessler, aussi par Olivier Golinelli, à Saclay et moi-même. Alors, ça, c'est juste les états propres du système. On peut s'intéresser au courant, puisque c'est un système hors d'équilibre. Il porte un courant non nul, et c'est finalement ça l'objet qui nous intéresse dans tous ces problèmes-là. Par exemple, si on regarde quelle est la distance totale, yt, qui a été parcourue par toutes les particules pendant un temps t, entre 0 et t. On part d'une configuration initiale, on regarde au bout d'un temps t quel est le déplacement total de toutes les particules dans le système. J'appelle ça yt. C'est une variable aléatoire, sa statistique m'intéresse. Sa moyenne, sa variance, sa distribution de probabilité. Une bonne manière de mettre tout ça ensemble, c'est de regarder la valeur moyenne d'exponentielle mu y, la fonction caractéristique qui contient la statistique du système. En temps long, on peut montrer que cette fonction caractéristique croît exponentiellement avec le temps, avec un exposant de Lyapunov, E de mu, qui, en fait, permet de calculer tous les cumulants, les moyennes, la variance, le cumulant d'ordre 3 et les suivants de la variable aléatoire y de t. Donc si on est capable de calculer cette fonction E de mu, on connaîtra au temps long la statistique du courant du système, dans le système. Alors cette fonction E de mu peut être calculée encore par Bethe-Ansatz. Il y a toute une technique qui est derrière, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que cette fonction E de mu, ce n'est pas par hasard qu'elle est notée ainsi, c'est en fait une valeur propre maximale d'une matrice qu'on peut fabriquer à partir de la matrice de Markov du système, qui n'est plus markovienne, mais qui est encore diagonalisable par Ansatz de Bethe. Et on peut écrire des formules exactes en termes combinatoires pour cette fonction E de mu. Plus précisément, ce qu'on obtient, c'est une représentation paramétrique de la fonction E de mu, et on peut trouver exactement tous ces coefficients qui sont liés à des combinatoires d'arbres, etc. Donc ces travaux-là avaient commencé en 1998 dans le cas TASEP par Derrida et Leibovitz, et un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, on a pu résoudre des cas plus généraux, dans le cas ASEP général, donc on permet des sauts dans le sens inverse avec Sylvain Prolac. Alors le genre de résultat qu'on peut obtenir, par exemple, c'est qu'on peut regarder quelle est la distribution des courants au temps long. Si on appelle y de t le déplacement complet des particules entre le temps 0 et t, si on divise par le temps, ça nous donne le courant total du système. La moyenne de la charge transportée divisée par le temps, c'est le courant moyen. Mais on peut se demander quelle est la probabilité d'obtenir un courant qui n'est pas donné par le courant typique, mais qui est quelconque, quelle est la probabilité de voir yt sur t égale j. Et bien là encore, ça prend une forme de type exponentiel, et cette fonction phi de j, c'est ce qu'on appelle la fonction de grande déviation du système. Donc ce type de calcul permet d'avoir accès à la fonction de grande déviation du courant, par exemple, et par transformée de Legendre à cette fonction génératrice des cumulants. Alors on obtient des résultats, on peut obtenir une sorte de distribution, plus exactement une figure pour cette fonction de phi de j, qui est reliée à la distribution du courant au temps long, et on voit par exemple que cette distribution, comme dans le cas de Tracy-Widom, à laquelle elle est un petit peu reliée par des arguments de taille finie, cette distribution n'est pas symétrique. On se rend compte que, par exemple, elle croît beaucoup plus vite dans le cas positif pour avoir un courant très grand, et elle croît moins vite pour avoir des courants négatifs. Et il y a une intuition très simple qui est derrière. Pensez à votre système avec des particules qui sautent dans un anneau. Si on veut diminuer le courant, il suffit qu'une particule ralentisse. Dans ce cas-là, elle va gêner tout le monde à cause du principe d'exclusion, et le courant va baisser fortement dans le système. Donc c'est assez facile de réduire le courant. Par contre, si on veut augmenter le courant de manière un peu extrême, dans ce cas-là, il faut que toutes les particules se mettent à sauter de manière anormalement rapide. Et ça, c'est plus difficile. C'est quelque chose de collectif. D'où la différence entre les deux puissances qui sont là. Et on peut regarder des problèmes, par exemple, à la limite où la symétrie est faible. C'est des problèmes qui sont bien adaptés à la limite continue. Et là, on se rend compte que si on regarde la fonction de grande déviation du système, elle développe une singularité quand on change la symétrie du modèle. Donc c'est ce qu'on appelle une transition de phase dynamique. Elle avait été prédite par Thierry Bodineau et Bernard Derrida en utilisant une limite continue du modèle. Et des calculs exacts par Ansatz de Bethe permettent de retrouver aussi le même genre de singularité, en fait. Alors ça, c'était pour le modèle fermé. Si on regarde le modèle le plus réaliste, qui est le modèle ouvert avec deux réservoirs. Alors ce modèle-là, il est vraiment hors d'équilibre. Et pour le coup, les configurations microscopiques, il y a deux puissances L configurations possibles, puisque chaque site peut être occupé au vide. Les deux puissances L configurations microscopiques, elles n'ont pas du tout la même probabilité d'apparaître dans l'état stationnaire. Certaines sont plus probables que d'autres, elles ne sont pas toutes égales, contrairement au cas sur un anneau. Et ces probabilités d'apparition dépendent des densités des réservoirs au bord, des paramètres alpha, bêta, gamma, delta. Donc il y a 25 ans, le temps passe, la solution exacte de ce modèle a été trouvée par Derrida, Evans, Hakim et Pasquier en utilisant ce qui est devenu depuis une méthode, la méthode de l'Ansatz matricielle. Et l'idée est la suivante, c'est que ce système il a des corrélations fortes, donc une hypothèse de type champ moyen ne va pas marcher. la probabilité de voir une configuration de ce type-là, de type, par exemple, vide, occupé, vide, occupé, occupé, ça ne va pas être le produit d'avoir un site vide fois un produit d'un site occupé, fois vide, fois deux fois occupé. Mais à cause des corrélations, en fait, la meilleure manière de décrire, la bonne manière de décrire ce système, c'est de représenter les poids des configurations microscopiques comme des produits de matrices et de regarder ce produit de matrice équivalent à cette configuration et de regarder un élément de ce produit de matrice. Pour le dire un tout petit peu plus précisément, une configuration, c'est un nombre binaire, 0, 1, 0, 1, 1, etc., pour le dessin qui est là. À chaque particule, on associe une matrice D. À chaque vide, on associe une matrice E. Et donc, finalement, une configuration, c'est un mot de deux lettres formé de D et de E. Ici, ce sera E, D, E, D carré, E, etc., etc. Ce mot, si D et E sont des matrices, c'est un produit de matrice, c'est une grande matrice. Eh bien, il y a un élément de cette grande matrice qui vous permet de calculer le poids stationnaire de ces configurations, mais pas pour n'importe quel choix des matrices. Il faut que les matrices vérifient l'algèbre quadratique qui est donnée ici. Alors, je passe rapidement sur la méthode, mais cette méthode permet de dévisser le problème, puisqu'on a, on a les poids atomiques de chaque configuration, c'est-à-dire qu'on peut finalement calculer beaucoup de choses dans le système pour son état stationnaire. Par exemple, on peut obtenir son diagramme de phase. Suivant les densités des réservoirs à gauche et à droite, on va avoir trois phases possibles. Une phase de grande densité. Grande densité, ça veut dire que le réservoir de gauche est peu rempli, donc il ne peut pas donner beaucoup de particules. Et le réservoir de droite est très plein, donc finalement le système va se remplir. La phase de basse densité, ben, c'est le contraire. Le réservoir de droite est très vide, donc on peut facilement déverser des particules dedans et le système va se vider. Et puis il y a une phase intermédiaire qu'on appelle la phase de courant maximal. Donc grâce à l'ANDAS matriciel, on peut faire des calculs exacts et ça a été développé énormément. Il y a une jolie revue qui a déjà 10 ans de Blythe et Evans qui fait plus d'une centaine de pages qui donne des tas de cas, des tas de problèmes qui sont résolus par ce type de méthode. Et des tas de résultats sur le modèle d'exclusion. Alors, par ce type de méthode, on peut calculer, c'est ce qu'ont fait Bernard Derrida, Leibovitz et Speer en 2002, la probabilité de voir un profil de densité quelconque. Alors, si on regarde le système et qu'on regarde les particules, finalement, bah, ça fait une sorte de profil de densité. Là, il y a pas mal de densité, là, il y en a moins, etc. Donc, on peut regarder aux très grandes échelles quelle est la probabilité de voir un profil de densité dans ce modèle quand L tend vers l'infini. On peut, grâce à ce matriciel, on peut calculer exactement la distribution, plus exactement la fonction de grande déviation, d'un profil de densité, et c'est un calcul exact à partir de l'ANDAS matriciel. Le message à retenir, c'est que, à l'équilibre, les deux réservoirs sont de même densité, on retrouve finalement ce à quoi on s'attendait, ρ log de ρ plus 1 moins ρ log de 1 moins ρ, qui est l'entropie de base pour un système de particules indépendantes. Par contre, dès que le système est hors d'équilibre, la formule exacte obtenue n'a plus rien à voir avec le cas d'équilibre, et elle n'est même pas obtenue en faisant une hypothèse d'équilibre local. Alors, un point sur lequel je voudrais peut-être revenir vers la fin, c'est que cette formule a été obtenue d'abord par l'ANDAS matriciel. Il y a une manière, une fois qu'on l'a obtenue, de la retrouver par un raisonnement hydrodynamique qu'on appelle la théorie de la fluctuation macroscopique, dont je parlerai tout à l'heure. Et c'est aussi un point important, c'est que le modèle d'exclusion permet de tester par ses résultats exacts des théories de limite continue, des théories hydrodynamiques, et ça sert de pierre de touche finalement pour comprendre des choses plus générales. Alors, on s'était intéressé au profil, on peut s'intéresser au courant qui passe dans le système. Là, pour le coup, on a vraiment un système ouvert avec deux réservoirs de densité différente. Il y a des particules qui vont de la gauche vers la droite. On peut compter combien de particules y de t sont passées de la gauche à la droite pendant un temps T. Si on divise par T, ça nous donne le courant qui a été transporté en moyenne pendant le temps T, et on peut regarder quelle est la probabilité d'obtenir un courant qui n'est pas égal à la valeur typique, à la valeur donnée par la loi d'Ohm, si vous voulez, dans ce système. Donc on peut calculer la distribution du courant au temps long, plus précisément la fonction de grande déviation. Vous voyez que la formule qu'on obtient est finalement assez simple, mais cette formule assez simple est obtenu au prix d'une généralisation de l'ANDAS matriciel et au prix de calculs assez lourds. Je peux vous en témoigner. Mais au moins, voilà, pour ce modèle-là, on est capable de comprendre quelles sont les fluctuations du courant dans toutes les phases. Je vous avais dit qu'il y avait trois phases. Dans la phase de haute et de basse densité, la formule est assez simple. Dans la formule de courant maximal, elle est moins simple, mais elle ressemble à ce qu'on obtient, par exemple, pour un système sur un anneau. Voilà. La troisième type de profil assez pur qu'on peut regarder, c'est le système sur une taille infinie. Alors là aussi, on en a entendu un petit peu parler au cours précédent et au premier cours. Le système sur une taille infinie, il n'y a pas de bord. Tout ce qu'on se donne, c'est une densité de particules au temps nul. Donc il y a une certaine densité de particules. Un site est occupé avec une probabilité 1,5 ou 1 tiers, ce qui correspond à une densité 1,5 ou 1 tiers. Et chaque particule peut sauter avec probabilité P ou Q, avec taux P ou Q, vers la gauche ou vers la droite, vers un site libre. Alors ce modèle-là, en fait, par une variante de Landas de Bethe pour les systèmes infinis, Schutz, puis Tracy et Widom, à 10 ans d'intervalle, ont obtenu une formule exacte pour ce qu'on appelle la fonction de Green. C'est-à-dire que supposons qu'on se donne un nombre fini de particules dans le système, donc là une densité nulle, mais un nombre fini de particules qui se trouve en x1, x2, xn, on peut calculer exactement la probabilité qu'au bout d'un temps t, ces particules qui étaient initialement en x1, xn se retrouvent en y1, yn. Il y a une formule exacte qui est donnée ici. Alors vous voyez, encore une somme sur les permutations. Ça, c'est vraiment ce rappel, et c'est Landas de Bethe qui est derrière. Mais la formule est donnée par des intégrales multiples dans le plan complexe, d'ondes planes, là encore, Landas de Bethe, multipliées par des amplitudes qui sont des fractions rationnelles. Alors en fait, pour ceux qui ont une mémoire photographique absolue, ces amplitudes-là sont exactement celles qui intervenaient dans les équations de Bethe que j'avais écrites tout à l'heure. C'est par hasard, puisque c'est la même méthode. Donc ça, c'est une formule exacte, mais elle est compliquée. C'est une somme sur factoriel n permutation, mais au moins, elle contient exactement la fonction Green du système, donc l'évolution d'un état initial vers un état final. On se dit que maintenant, si on veut calculer des choses plus précises, il va falloir essayer de faire des sommes partielles, prendre des marginales de cette fonction de Green qui contient absolument toute l'information. Alors en particulier, si on prend le cas de TASEP, donc P égale 1, Q égale 0, on ne saute que vers la droite, cette formule peut se réduire à un grand déterminant. C'est une simplification énorme d'avoir un déterminant parce que ça donne une structure algébrique sur laquelle on peut faire des asymptotiques, faire des calculs, etc. Donc dans le cas P égale 1, Q égale 0, cette grande formule serait écrite comme un déterminant de Fredholm. Alors on peut se poser par exemple la question suivante. Venons à ce cas donc totalement asymétrique où les particules ne sautent que vers la droite avec un taux 1. Et commençons par la condition initiale où tout ce qui est à gauche, tous les sites négatifs sont remplis et tout ce qui est à droite est vide. On laisse le système évoluer, les particules vont commencer à remplir la zone vide, ça va fuir vers la droite. Et on peut se poser la question, quelle est la probabilité qu'il y ait un courant total Q de T qui soit produit au bout d'un temps T ? C'est-à-dire qu'il y a T particules, Q de T particules qui se retrouvent à droite du système au bout du temps T. C'est le courant total. Là, c'est juste le nombre de particules qui sont dans la partie de droite qui était initialement vide. En partant de la formule de Schutz, Tracy, Widom, on peut montrer que la formule précédente permet de calculer la probabilité que Q de T soit supérieur ou égal à N, qui est au moins un courant N, qui est au moins N particules qui soient passées à droite au bout d'un temps T. Et la formule précédente, si on travaille un peu avec elle, mais c'est moins dur qu'il n'y paraît, en fait. Ce qui est compliqué, c'est d'obtenir cette formule. Ensuite, en faisant des sommes de déterminants, des sommes, etc., on peut montrer que la probabilité que Q de T soit supérieur ou égal à N s'écrit comme une intégrale n-uple d'un van der Monde au carré par des exponentielles moins xi. Mais ce type de formule-là, c'est exactement les formules qui apparaissent en matrice aléatoire pour calculer la densité des valeurs propres, des n valeurs propres. C'est exactement le type de formule qu'on a vu au cours des séances précédentes pour le DPRM, pour les polymères dirigés en milieu aléatoire ou pour les matrices aléatoires. Donc finalement, l'apparition de ce type de formule montre que le modèle d'exclusion se branche d'une certaine manière à la théorie des matrices aléatoires et que toute la technologie qui a été développée et qui est en train de se développer pour les matrices aléatoires est en fait très utile pour comprendre ce qui se passe, même dans un problème aussi simple qui est de calculer la statistique du courant des particules qui sont passées à droite dans le modèle d'exclusion. Alors, en termes très précis, cette formule-là correspond à la distribution de la plus grande valeur propre d'un ensemble de matrices aléatoires qui s'appelle l'ensemble de Laguerre. Et c'est bon, c'est juste anecdotique. Alors ça permet, en utilisant cette technologie développée dans les années 90 et 2000 sur les matrices aléatoires et en particulier sur leur plus grande valeur propre, d'obtenir la statistique au temps long du courant dans TAZEP avec cette condition initiale très particulière. Ça permet de dire que ce courant va croître en T sur 4, ça c'est facile. La correction se comporte en T 1 tiers, c'est le même exposant bêta que l'on voit pour KPZ, fois une variable aléatoire, donc on soustrait tout. On factorise et on soustrait tout ce qu'on sait, et il reste une variable aléatoire ici, xi, et cette variable aléatoire suit la statistique de Tracy-Widom, qui est la statistique de la plus grande valeur propre d'une matrice d'un ensemble GUE. Donc cette, je pense que l'une des toutes premières personnes à avoir vu ce lien, c'est Johansson en 2000, et ensuite il y a eu vraiment énormément de travaux dans cette direction-là, qui ont développé ces idées, les ont utilisées, les ont généralisées. Alors, juste en un mot, la statistique de Tracy-Widom, la distribution de Tracy-Widom, c'est en fait la cumulative. C'est la distribution intégrée jusqu'à l'infini. Cette distribution de Tracy-Widom, elle est explicite, mais un peu compliquée. Elle s'écrit en fonction d'une fonction petit u, qui est solution d'une équation de pain levé, qui est une équation non linéaire du second ordre. Donc c'est une partie de la mathématique classique du 19e siècle ou du début du 20e qui revient par ce truchement-là. Et c'est des choses qui sont en fait tabulées, comprises et qu'on peut utiliser. C'est moins explicite qu'une gaussienne, mais on sait ce que c'est. Alors, c'est très lié aux solutions de l'équation de Cardin-Parisi-Zhang par quatre groupes différents il y a à peu près 7 ou 8 ans. Les groupes Sasamoto-Spohn, Corvin-Amir-Castel, Dotsenko et le Doucelle-Calabrese-Rousseau. Puisque je vous ai montré tout à l'heure rapidement que le modèle d'exclusion, c'était un problème d'interface à une dimension, donc ce type de solution peut se traduire sur KPZ, et en particulier, en développant cette théorie, maintenant elle porte un nom, utiliser les méthodes d'intégrabilité pour résoudre des problèmes de probabilité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le domaine des probabilités intégrables, qui sont encore très développées par Borodin, Corvin, Petrov, Ferrari, Tomohiro Sasamoto en particulier, et d'autres, leurs élèves, leurs collaborateurs. Et ce qui est joli, c'est que ce genre de statistiques, qui sont des statistiques, c'est très mathématique, c'est très physique-mathématique, ça a été vu dans la vraie vie par Takeuchi et Sano sur des expériences de cristaux liquides. Ils ont fait croître une phase de cristaux liquides à l'intérieur d'une autre, et ils ont obtenu une statistique très propre sur la statistique de l'interface. Alors, il y a plusieurs possibilités de conditions initiales. Soit on croit sur un germe ponctuel et ça va croître en rond, un peu comme le modèle d'Eden. Soit on commence par un germe qui est distribué et ça croît comme une interface qui monte. Et c'est... Donc, Takeuchi et Sano ont été capables de mesurer très précisément la distribution des hauteurs, des corrélations. Et ce qui est beau, c'est qu'effectivement, leurs résultats expérimentaux coïncident avec les courbes de type Tracy-Widom qui ont été calculées par ces groupes-là. Et ça marche. Les asymétries, les caractéristiques fines, je crois Alpinelli nous avait expliqué ça au premier séminaire, ça marche bien. Alors, peut-être dans la quinzaine de minutes qui me restent, je voudrais parler d'un problème un petit peu plus particulier qui me tient à cœur depuis un an ou deux, et qui est aussi quelque chose qui est important quand on pense au modèle d'exclusion. Pensez au modèle d'exclusion sur une ligne infinie et au problème d'exclusion symétrique. Donc, en quelque sorte, le cas le plus simple qu'on puisse imaginer, on a une densité rho, 1,5 par exemple, sur une ligne infinie, et les particules peuvent sauter symétriquement de gauche ou de droite, avec cette contrainte qu'elles n'ont pas le droit de se chevaucher, elles n'ont pas le droit d'occuper deux fois le même site. Donc il y a cette exclusion. Et supposons qu'on prenne une particule là-dedans, on la mette en 0 au temps t égale 0, elle a juste une couleur différente, elle se comporte exactement comme les autres, mais elle porte un fluo fort, et on peut la regarder, on peut faire un échantillonnage, on peut monitorer, comme disent les Anglais, sa position au bout d'un certain temps. Donc on sait ce qu'elle fait, et on peut faire la statistique complète. Alors d'abord, c'est symétrique, donc en moyenne, évidemment, sa position x de t sera nulle. Elle sera autant à gauche qu'à droite. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, si les particules n'étaient pas interagissantes et qu'elles avaient le droit d'occuper le même site, pas d'exclusion, évidemment, chaque particule diffuserait. Donc, moyenne de x carré de t serait linéaire en temps. C'est juste une marche au hasard, à la limite continue, un mouvement brownien. D'accord ? Eh bien, ici, à cause de la contrainte d'exclusion, en fait, la diffusion est anormalement lente. Moyenne de x carré étant racine de t. Autrement dit, x se comporte comme t puissance 1 quart. C'est une diffusion en loi 1 quart. Et c'est peut-être la manière la plus simple d'engendrer une diffusion anormale, uniquement à une dimension. À cause de cette contrainte d'exclusion, les particules conservent leur ordre et elles diffusent de manière anormalement lente en racine quatrième du temps. Alors ça, c'est quelque chose qui avait été compris, je crois, par Spitzer dans les années 70, qui a énormément provoqué de travaux depuis. Et la preuve mathématique précise pour le modèle d'exclusion date d'Aratia, qui a calculé, alors c'est une limite, hein, c'est une limite au temps long, il faudrait vraiment dire limite quand t envers l'infini de ça égale ça, en 83. Donc c'est un résultat classique, et finalement c'est l'un des résultats simples qu'on peut retenir pour le modèle d'exclusion. S'il y a quelque chose d'assez simple à retenir, c'est qu'à une dimension, le processus d'exclusion asymétrique, ça fabrique de la diffusion anormale en t1 quart, juste parce que les particules n'ont pas le droit de se dépasser, les voitures ne peuvent pas voler les unes au-dessus des autres. Alors ça, c'est quelque chose qui était bien connu, mais on pourrait se poser des questions un petit peu plus élaborées. On pourrait se demander, mais c'est bien de connaître la variance, est-ce qu'on pourrait connaître plus, par exemple, la distribution de x de t ? Alors, désolé, j'ai oublié de vous raconter, parce qu'il faut parler de choses vraies. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière avant de vous parler de choses plus mathématiques. Cette diffusion anormale porte le nom en anglais de single file diffusion. Je ne sais pas très bien comment le traduire. Diffusion de file d'attente ou diffusion en file. Alors, si on regarde par exemple ce dessin-là, qui est très simple, si on prend un capillaire assez épais et des particules rouges toutes petites qui ont le droit de se chevaucher, de se dépasser, eh ben, une particule marquée va diffuser de manière normale. Par contre, si on prend un capillaire plus fin et une macromolécule bleue assez grosse, tellement grosse qu'il y a une contrainte stérique et qu'elles n'ont pas le droit de se chevaucher, eh bien une particule marquée va diffuser en t1 quart. Donc ce petit dessin, juste pour vous insister sur le fait qu'on se rend compte qu'un système comme ça, c'est réaliste. Et effectivement, ça a été vu, il y a des tas d'expériences dans des capillaires fins, dans des microtubules, des choses comme ça, où ce genre de comportement est vu par des gens qui font de la microréologie ou de la matière condensée soft, molle. C'est quelque chose qui est une sorte de paradigme pour comprendre la diffusion anormale. Alors, il y a aussi des expériences plus dédiées pour mettre en évidence ce phénomène. C'est les expériences du groupe de Bechinger à Stuttgart. Alors, lui, il fabrique le conduit et il fabrique les molécules qui passent à travers. Donc si le conduit est trop petit pour qu'on ne puisse pas avoir plus qu'une molécule qui passe à la file indienne, eh bien une diffusion anormale. Si le conduit est suffisamment grand et que les particules ont le droit de se chevaucher, on refabrique une diffusion normale. Donc ça, c'est vraiment bon, c'est une expérience de visualisation de l'effet. Mais l'effet se voit très bien aussi sur des systèmes qui n'ont pas été fabriqués pour. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Tout à l'heure, x carré de t, Aratia a montré que x carré de t se comportait en racine de t, et même le préfacteur était connu. Mais il n'y a pas de formule, il n'y avait pas de formule connue pour les moments d'ordre plus élevé ou pour la distribution de x de t. La chose qui était connue et qui est assez récente, qui a été prouvée il y a 4-5 ans par Sethuraman et Varadhan, c'est qu'au temps long, si on divise la position du traceur par racine de t, le 4 est là juste pour faire joli, il y a un principe de grande déviation, donc il y a une fonction de grande déviation qui apparaît pour le modèle. Et ces auteurs avaient montré l'existence de la fonction de grande déviation, avaient montré ses asymptotiques, mais n'avaient pas donné de calcul précis. Ça, c'est pour un système qui est pur, dans lequel toutes les particules sont distribuées avec une densité uniforme. Mais on pourrait aussi se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on commence par un profil où on met plus de particules à gauche qu'à droite ? Dans ce cas-là, le traceur va être poussé vers la droite. Comment il va se comporter ? Quelle va être sa vitesse ? Est-ce qu'il a une vitesse ? Comment il va réagir non seulement à la dynamique, mais à la présence d'une condition initiale qui n'est pas uniforme et qui va créer une sorte d'onde de choc qui le pousse. Voilà le dessin, par exemple. Si on commence avec un profil de densité qui n'est pas uniforme et qu'on met le traceur là, évidemment, bah, à cause d'une sorte de pression hors d'équilibre, il va être poussé dans cette direction-là. Comment il se comporte? Donc, d'une certaine manière, on voudrait calculer sa statistique, la fonction génératrice de ses cumulants, ou calculer sa fonction grande déviation. C'est à peu près équivalent. Les deux sont reliés par une transformation de Legendre. Si on connaît l'une, on connaît l'autre, au moins au niveau de rigueur physique à laquelle on se place. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que la fonction de grande déviation du traceur, c'est le maximum d'une fonction par rapport à un paramètre lambda. Ça peut se démontrer. Bon. Donc, finalement, si on veut calculer cette fonction de grande déviation qui contient la statistique du traceur au temps long, il faut calculer cette fonction mu. Après, il n'y aura plus qu'à prendre sa dérivée par rapport à lambda et calculer son maximum, et on aura trouvé la fonction de grande déviation du traceur. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une formule pour ce mu, hein, puisque ce mu, finalement, contient l'information qui nous intéresse. Il contient en fait bien plus, et des choses qu'on peut exploiter, mais il contient au moins l'information qui nous intéresse. Ben, ce mu a une formule explicite, finalement assez simple. Alors, si j'écris la formule là, ce n'est pas pour que vous la reteniez, c'est plutôt pour en détailler la structure dans quelques instants. C'est une formule qui est donnée par une série, mais on est habitué à voir ce genre de série. D'ailleurs, ce genre de série apparaît aussi dans le TASEB sur un anneau. Ça rappelle des séries qu'on voit pour les gaz de Bose ou des gaz de fermion quand on apprend ces choses-là au début, quand on regarde la condensation de Bose-Einstein, par exemple. Il y a une variable effective qui contient les densités à gauche et à droite, au plus et au moins, qui apparaît tout le temps dans ce système. Et puis, il y a des fonctions d'erreur qui apparaissent. Donc, même si la formule a l'air un petit peu compliquée, elle est en fait fabriquée de briques élémentaires qui sont assez simples. Alors, plus précisément, et c'est ça qui est amusant et qui se relie à aussi ce qu'on a entendu au cours dernier, on peut en fait obtenir une formule exacte, non seulement au temps long, pour la statistique du traceur, mais même au temps fini. Et cette formule exacte au temps fini, elle fait apparaître un déterminant de Fredholm. Alors, ce déterminant de Fredholm, c'est le déterminant d'une matrice infinie, d'un opérateur. Bernard Derrida nous avait expliqué la semaine dernière comment calculer des déterminants d'opérateurs infinis. Il suffit de prendre le log de la trace et de calculer des traces successivement de k carré. Et ce déterminant infini fait apparaître encore une fois un noyau qui n'est pas autre chose que celui qui émerge de l'andas de Bethe et des conditions au bord factorisées qui en fait contiennent les densités à gauche et à droite du système et d'une certaine manière les densités asymptotiques du système, c'est un peu comme si vous aviez des réservoirs très loin qui donnent des particules avec densité ρ plus ou ρ moins. Et donc des espèces de réservoirs poissoniens. Alors, juste pour être... Ça a l'air très abstrait. J'ai juste mis ça pour dire que les choses ne sont pas aussi abstraites qu'elles en ont l'air. Avec ces formules-là, on peut calculer, on peut retrouver la valeur de x carré moyen, le bon vieux résultat d'Aratia, 83. On peut obtenir une formule pour le quatrième cumulant, pour le sixième cumulant. Ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est faisable. Donc, c'est des formules qui ont l'air abstraites, mais à la fin, elles donnent des nombres explicites. Donc, c'est des formules qui sont exploitables. Alors, évidemment, c'est plus facile d'essayer de faire des dessins avec. Par exemple, on peut dessiner la fonction de grande déviation du système. Alors, vu comme ça, elle n'a pas l'air d'avoir une structure. Comme toute bonne fonction de grande déviation, elle est convexe, elle a un minimum unique et elle ressemble vaguement à une parabole, même si ce n'est pas une parabole en l'occurrence, mais elle est très, très régulière. Et on peut comparer, par exemple, ce qui se passe par exemple, pour différentes limites de densité, de grande densité et des choses comme ça. Alors, il y a deux points physiques qui sont importants. C'est que d'abord, la fonction de grande déviation, elle satisfait une symétrie. C'est une fonction de grande déviation et on sait qu'en général, les fonctions de grande déviation, elles satisfont une symétrie qu'on appelle la symétrie de Galavoti-Cohen, qui correspond à la trace du renversement temporel pour la dynamique du système. Alors là, la symétrie, elle est par rapport aux conditions initiales. Alors, donc, là encore, en partant de la formule compliquée qui est là, ou celle-là plutôt, on peut montrer cette relation simple de quasi-parité de la fonction de grande déviation. Alors l'intérêt de cette formule, non seulement parce qu'elle est, bon, elle est très réputée, la formule, la relation de Galavoti-Cohen, c'est qu'elle permet de montrer que le processus d'exclusion, même s'il a une diffusion anormale, il satisfait à ce qu'on appelle la relation d'Einstein. La relation d'Einstein, elle vous dit que si on a une particule toute seule, elle diffuse, avec une certaine coefficient de diffusion. Et si maintenant cette particule est chargée et qu'on met un petit champ dessus, elle va avoir une mobilité, d'accord ? Elle va répondre au champ extérieur, il va y avoir une susceptibilité, une mobilité. Et la relation d'Einstein vous dit que la mobilité et la diffusion, à l'équilibre, sont égales, à kT près, où elles sont proportionnelles, et il y a un facteur qui dépend de la température entre elles. Là, on a un système avec des interactions, et il n'y a pas de diffusion. La particule marquée, elle ne diffuse pas, elle se comporte en racine quatrième du temps. D'accord ? Il y a un coefficient devant, mais qui n'est pas un coefficient de diffusion. Ça n'a pas la bonne échelle. Et si on met un petit champ, donc une petite asymétrie dans le modèle d'exclusion, cette particule marquée, elle va se mettre à dévier, très légèrement. Mais elle ne va pas avoir une vitesse finie, puisqu'à cause des autres particules qui l'empêchent de boucher, qui elles sont symétriques, elle va en fait commencer à se déplacer avec un mouvement en racine de t. Donc il va y avoir une mobilité généralisée qui n'est pas une mobilité linéaire, c'est en racine de t. Eh bien, il y a très longtemps, Ferrari, Einstein et Leibovitz avaient montré que cette mobilité non linéaire et cette diffusion anormale étaient proportionnelles. Donc il y avait ce qu'on appelle une relation d'Einstein, même dans ce cadre qui n'est pas le cadre d'Einstein, où normalement c'est la diffusion normale. Eh bien, la relation de Galapagos-Cohen permet de retrouver, par exemple, cette relation d'Einstein de manière automatique. Et elle contient bien plus, en fait. Donc c'est l'une des importances de cette relation. Alors, pour terminer, dans les quelques minutes qui me restent, je vous ai montré pas mal de calculs avec des techniques élaborées où l'Anders de Bethe joue un rôle fondamental. Mais on se dit qu'on est en train de regarder finalement un fluide de particules avec interaction qui est en train d'évoluer sous un champ extérieur éventuellement et sous la pression hors d'équilibre des deux réservoirs qui ne sont pas équilibrés, donc qui font qu'il y a un réservoir qui a tendance à pousser les particules vers celui qui est plus faible. Et on voudrait pouvoir décrire ça de manière continue, avec une théorie hydrodynamique, une théorie avec des équations dérivées partielles. Alors une manière naturelle de le faire, alors ici je vais considérer le cas où il n'y a pas de champ, donc nu et nul, donc il y a juste deux réservoirs hors d'équilibre avec une barre entre eux, donc on est en train de revenir au dessin initial. Une manière de le faire, c'est d'écrire qu'on a une équation de continuité pour le système, donc la variation de la densité locale, c'est la divergence d'un courant. Et ce courant, il est donné par une loi de Fourier locale, qui dépend de la densité locale, et un bruit. Si on écrit une équation comme ça, on se retrouve avec une équation différentielle aux dérivées partielles stochastiques pour la quantité, pour le champ de densité ρ. Bien, il y a beaucoup de systèmes, qu'on appelle systèmes diffusifs, qui sont en fait décrits par des équations de ce type-là, des équations non linéaires, bruitées de ce type-là. Et finalement, le seul ingrédient de l'échelle microscopique qui survit à l'échelle macroscopique pour décrire ce système à grande échelle, les deux seuls ingrédients qui survivent, c'est la donnée de la constante de diffusion d de ρ et la donnée de la susceptibilité sigma de ρ. En fait, elles sont liées. Mais au moins, a priori, on a besoin de ces deux quantités-là pour pouvoir écrire une équation continue hydrodynamique qui décrit le système. Alors là, il n'y a rien à faire. Ces quantités-là, comme ces coefficients de transport, ils viennent vraiment de la dynamique microscopique et on ne peut pas les donner a priori. Il faut retourner à l'échelle microscopique pour pouvoir les calculer. Dans le cas du modèle d'exclusion, ils sont particulièrement simples. D, c'est 1. Donc c'est comme s'il n'y avait rien là. Et sigma, c'est 2 rho 1 moins rho. Le 2 est là pour des raisons d'unité. C'est le rho 1 moins rho du courant qu'on connaît bien pour le modèle d'exclusion. L'ingrédient supplémentaire, c'est cette partie qui dépend d'un bruit stochastique, qui est un bruit blanc en espace et en temps gaussien, dont l'amplitude devient d'autant plus petite que la taille du système est grande. Donc en ayant écrit ça, finalement, on a une sorte d'hydrodynamique fluctuante pour essayer d'écrire le système sans avoir à faire la combinatoire, si on peut résoudre ce genre d'équation, ce qui est loin d'être évident, sans avoir à faire la combinatoire microscopique du système. Donc ce serait un peu l'équivalent d'une sorte de thermodynamique du système. Alors, je vais vous décrire rapidement ce qui se passe. Quand on a une équation comme ça, non linéaire, avec un bruit, si on a un bruit, d'une certaine manière, on a une probabilité de voir, tout devient stochastique, on a une probabilité de voir un certain courant, une certaine densité dans le système, et cette probabilité prend une forme de grande déviation avec une action qu'on appelle l'action de la macroscopic fluctuation theory, la MFT. Cette action est quadratique, elle prend cette forme-là, et elle a été développée par le groupe de Rome, Bertini, Gabrielli, Desolé, John Alasigno et Landim, enfin Rome est presque, Landim n'est pas à Rome, qui a été expliqué en cours ici l'année dernière. Donc finalement, l'équation stochastique précédente se résume à un principe d'action pour des systèmes grands en espace et en temps. Et ce principe d'action, si on veut par exemple regarder quelle est la probabilité que le traceur ait fait une excursion x de t, on peut montrer que finalement une fluctuation donnée du traceur, une position finale donnée du traceur, est produite par une fluctuation de tout le système, qu'on appelle une fluctuation optimale, qui va maximiser cette action sous contrainte. On met la contrainte que le traceur, au bout d'un temps t, arrive là-bas, et il faut maximiser ce principe variationnel pour que la contrainte soit obéie. Alors, dès qu'on a un principe variationnel et des contraintes, on sait qu'il y a des équations de Laër-Lagrange sous-jacentes. Et finalement, essayer de comprendre la statistique du traceur, c'est essayer de résoudre les équations de Laër-Lagrange de la MFT, qui ont une structure hamiltonienne, avec des contraintes qui sont données par des conditions au bord, qui, elles, dépendent de la position qu'atteint le traceur au bout d'un temps t. Alors, ces équations-là ne peuvent pas être résolues exactement dans le cas du processus d'exclusion. Ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, on peut faire des calculs perturbatifs. Et ces calculs perturbatifs ont été faits il y a quelques années. Ils permettent, par exemple, de retrouver les deux premiers moments, le résultat d'Aratia et le résultat obtenu après, en fait, par un calcul exact. C'est une manière de contrôler qu'on ne s'était pas trompé. Et une autre chose plus intéressante que cette approche hydrodynamique permet de faire, qui est hors de portée pour l'instant des calculs combinatoires exacts, c'est qu'elle permet d'avoir un film. Alors, si j'étais fort en LaTeX, je vous aurais fait un film, mais j'en suis incapable. Elle permet de voir comment l'hydrodynamique du système conspire de manière collective pour que, par exemple, votre traceur ait une fluctuation donnée. En résolvant ces équations hydrodynamiques, sinon exactement, au moins informatiquement, en les mettant dans la machine, on peut se poser la question et regarder quelle est la manière dont le profil de densité, la vague, fait en sorte que les particules poussent votre traceur pour qu'il arrive à une position finale donnée. Et là, par exemple, vous voyez, pour que le traceur atteigne cette position, ça c'est le temps final en rouge, là, il faut que, pour qu'il puisse aller suffisamment loin, à l'échelle de la figure qui est là, il faut que la condition initiale soit telle qu'il y ait une sorte de tsunami, une sorte de surpression de particules derrière lui, qui vont le pousser, et quand il va atteindre sa position finale, c'est lui qui aura poussé devant lui, il y aura une surpression de particules devant lui, et il y aura un creux derrière. Alors, si vous y réfléchissez, c'est une bonne manière de produire une fluctuation. Pour produire une fluctuation, c'est bien d'avoir une vague. Cette vague-là va pousser votre traceur très loin. Une fois que le traceur sera arrivé assez loin, il y aura un creux devant lui, et lui, par contre, il aura créé une surpression devant. Donc l'avantage de ces équations de MFT, c'est qu'elles permettent d'avoir des images hydrodynamiques de ce qui se passe, ce que la combinatoire microscopique ne permet pas d'atteindre, en tout cas pour le moment. Voilà, je voudrais juste conclure en essayant de résumer rapidement. Les fonctions de grande déviation, c'est important. Le processus d'exclusion, c'est un très bon modèle pour pouvoir calculer des choses explicitement. Il y a tout l'aspect pratique que Cécile Appert vous décrira la semaine prochaine, où ce modèle est vraiment utilisé pour décrire des choses réalistes. Mais du point de vue du théoricien, c'est un très bon modèle pour comprendre des tas de techniques, de la combinatoire, de l'ansatz de Bethe, des processus déterminantaux, des déterminants de Fredholm. Tout ça apparaît dans ce modèle qui a juste la complexité optimale pour pouvoir avoir une phénoménologie intéressante, mais en même temps pour pouvoir être tractable. Dès qu'on introduit des choses nouvelles, ça devient beaucoup plus difficile. Et par exemple, j'ai juste terminé par un dernier transparent. Ça, c'est un modèle qui obsède beaucoup de gens depuis maintenant très longtemps, depuis 92, je crois. C'est le modèle de Janowski-Leibovitz. Vous prenez le processus d'exclusion totalement asymétrique sur un anneau. Tout à l'heure, je vous ai dit que toutes les configurations étaient équiprobables. Mais maintenant, vous rajoutez, dans votre autoroute, vous rajoutez une constriction ou un chantier. Il y a un lien qui a un passage plus difficile, avec un taux R plus petit que 1. Donc une particule saute avec un taux 1 quand le site est libre. Mais si une particule est là, elle va sauter avec un taux R, 0,5 par exemple, vers le site 1. Donc c'est un lien ralentisseur. D'accord ? Là, pour le coup, les configurations ne vont plus du tout être équiprobables. On voit bien que si R est très très petit, il va y avoir une accumulation Ici, il va y avoir, c'est comme sur la route, il va y avoir un bouchon qui va se créer. Par contre, là, il y aura un vide. Et bien, la solution exacte de ce modèle-là n'est pas connue. Il y a eu des tas de progrès qui ont été faits. Je pense, d'un point de vue mathématique, il y a tout un groupe, notamment un jeune mathématicien indien qui s'appelle Basu, qui a fait des progrès récemment. Mais si on veut comprendre la combinatoire exacte de ce modèle, essayer de calculer les probabilités de chacune des configurations d'un point de vue microscopique, ça n'a pas été fait, à ma connaissance. Et en fait, on ne sait même pas si c'est faisable. Mais c'est un modèle qui est tellement simple à définir qu'il est captivant. Et je connais énormément de gens dans notre milieu qui ont au moins passé quelques semaines, sinon plus, à essayer de débrouiller ce modèle-là sans y arriver complètement. Donc, si l'envie vous y prend, n'hésitez pas. Je vous remercie.